Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au mois de juin 1977, trônait dans le forum du Centre Pompidou, qui avait ouvert ses portes depuis seulement quelques mois, une gigantesque créature, le Crocrodrome. Une installation mi-dinosaure, mi-train fantôme, revendiquée par un groupe d'artistes, Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle et Bernard Luginbühl, entre autres, réunis sous les noms des personnages d'Alain Saint-Augan, Zig et Puce. Cette exposition offrait l'occasion à Pierre Descargues de faire de Jean Tinguely son invité du lundi dans les après-midi de France Culture. Dans l'entretien que nous allons entendre, inventeur, créateur, bricoleur héroïque d'inutiles machines poétiques, infernales ou comiques, l'artiste suisse interrogeait le rapport entre sa production artistique et le monde machine que s'était fabriqué l'humanité au fil des derniers siècles. Un entretien dans lequel il revenait sur sa formation artistique et présentait sa galerie des grands hommes, son panthéon personnel. Dans sa galerie des grands hommes, Jean Tinguely faisait figurer des inventeurs, des ingénieurs comme Denis Papin, Otto von Guericke, Christian Huygens et Robert Boyle, comme Watt, Faraday ou Volta, en expliquant pourquoi ils avaient été, selon lui, pour le meilleur et pour le pire, des révolutionnaires bien plus déterminants que Rousseau, Proudhon ou Karl Marx. Mais, entre ces ingénieurs, dans son panthéon personnel, Jean Tinguely installait aussi un artiste, un inventeur dont il avait été l'ami très proche, Yves Klein. Les après-midi de France Culture, l'invité du lundi, Jean Tinguely, diffusé la première fois le 27 mai 1977 sur France Culture.
L'invité du lundi, le sculpteur Jean Tinguely, jusqu'à 16h30. Prise de son Nicole Dalmar, Marie-Françoise Simon, Gérard Reynaud, Patricia Latté. Je signale les musiques de Bernard Parmegiani, Pierre-Henri et Robert Altaber. La mise en page est d'André Mathieu.
Ils nous ont déjà lancé dans une civilisation tellement infernaliste qu'on ne sait plus, comment faire pour trouver des solutions. On ne sait plus comment faire pour arrêter la machine. On est dans la situation de l'apprenti sorcier, ça c'est clair. Mais je voulais juste dire, naturellement, constater, voilà les révolutionnaires. Ils ne s'appellent pas tellement Jean-Jacques Rousseau, ils s'appellent Denis Papin.
Jean Tinguely était un sculpteur du mouvement, un sculpteur qui compose des spectacles. Aujourd'hui, on le rencontre au centre de Paris, au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, avec le Crocrodrome de Zig et Puce. Une immense ferraille où l'on circule en wagonnet comme au train des fantômes. Une bonne partie de l'art actuel est faite pour la fête. On appelle ça happening dans les milieux distingués. Des happenings, Tinguely en a toujours fait. En 1960, dans les jardins du Museum of Modern Art, il a construit son hommage à New York, une machine autodestructrice commandée par le clavier d'un piano. La même année, à Paris, Tinguely a organisé dans la rue un cortège de machines qui, tout en circulant, faisaient des peintures, faisaient des sculptures. En 1962, dans le désert du Nevada, là où les États-Unis expérimentaient leurs bombes atomiques, il construisit une sculpture monstre, autodestructrice, dynamique et agressive, qui avait pour titre « Fin du monde ». En 1964, à Lausanne, des roues géantes à 10 mètres du sol, des bielles, des mouvements réguliers, c'était l'enseigne de la Suisse en son exposition nationale. En 1966, avec Hudvelt et Niki de Saint-Phalle, il organisa à Stockholm, dans l'intérieur d'une nana gigantesque, des parcours à surprise, à glissade, et dans le sein gauche, il y avait un bar où l'on buvait du lait en regardant la Voie lactée. En 1970, une de ces machines explosait à l'heure voulue sur le parvis de la cathédrale de Milan. Ensuite, sur le toit du pavillon français à l'exposition internationale de Montréal, il releva le défi sexiste et construisit des machines agressives qui pourfendaient les incravables nanas de Niki de Saint-Phalle. Derrière ces sculptures à grand spectacle, ces grands spectacles sculptés, tantôt divertissants, tantôt inquiétants, ou les deux à la fois, que Tinguely a composé à travers le monde, de Stockholm à New York, de Montréal à Paris, le Crocodrome, il y a une œuvre, il y a une pensée. Tinguely, qui en 1955 débuta auprès de Marcel Duchamp et d'Alexandre Calder, qui s'associa peu après au mouvement des nouveaux réalistes de Pierre Restany, avec Yves Klein, Armand, César Nikit Saint-Phalle, entre autres, Tinguely dit ceci. L'unique chose stable, c'est le mouvement partout et toujours. Ce qui est fort n'est jamais stable, ce qui est fort est toujours vitesse et mouvement. Le définitif, c'est le provisoire. D'où les machines et ses rapports avec les machines, c'est de l'art. Après-midi de France Culture, il est 15h18, l'invité du lundi, Jean Tinguely.
Je suis bien avec les machines et pas bien. J'exprime une crise que nous avons peut-être nous tous avec la machine. Nous sommes tous en état de crise, c'est-à-dire on est en état de changer par rapport à la machine, et de changer nos rapports avec la machine. La machine de Lausanne est devenue symbole du vide, symbole de piétiner sur place. C'est une machine qui est devenue le symbole des difficultés de ces temps modernes. C'était à l'occasion d'une exposition nationale suisse. Et c'était la seule chose absolument irrationnelle qui était dedans. C'était pas du tout l'ami des machines. C'était la machine inutile. C'était la machine inutile par excellence. Elle symbolisait parfaitement cette inquiétude qui caractérise le peuple suisse dans son industrie, dans son industrialisation forte, poussée, dans ce côté travailleur, ce côté foncer, rationaliser les choses. Je crois que les Suisses ont été à l'avant-garde de l'inquiétude sur le plan, comme les Suédois ont été à l'avant-garde de certaines pour modifier certaines structures sociales. La Suisse et l'Amérique ont disons, une nervosité par rapport à cette civilisation technologique qui est plus franche, plus simple que en France, on le découvre presque, je ne veux pas dire plus tard, mais d'une manière différente, plus philosophique peut-être. Mais ce n'est pas aussi largement l'inquiétude. L'inquiétude est grande dans les pays industriels nordiques dont la Suisse fait partie. Et cette machine de Lausanne, elle exprimait bien cette inquiétude. Elle était en quelque sorte le point sur le i de cette inquiétude. Elle était parfaitement, elle était une visualisation de cette inquiétude. C'était parfait. Et on n'a pas besoin de beaucoup de journalisme, il n'y a pas eu besoin d'intervention de beaucoup de mass media. Comme un des mortels, il était devant ça, il sentait, il venait de son usine, il allait à cette exposition, il restait cloué à cette machine, il sentait quelque chose, il sentait un rapport. Moi-même, je ne l'ai pas fait tellement en me contrôlant absolument. J'ai beaucoup hésité là aussi. Et je me suis comporté un peu comme un médium, il est normal que je ne sais pas, je ne peux pas nécessairement bien expliquer mon travail, ce travail, cette machine. Mais je sais que j'ai vibré avec, que j'étais près des gens, j'étais près du peuple, j'étais près des ouvriers, qui m'ont donné des conseils, d'ailleurs, souvent pour parfaire mécaniquement certaines impossibles choses que je faisais bouger. J'avais, par exemple, à cette époque-là, tout juste découvert qu'il existait la possibilité d'utiliser un roulement à billes. Je l'ignorais avant. Et j'écoutais les gars quand ils me suggéraient quelque chose. Alors, j'étais là, une éponge qui s'est pompée de l'ambiance du pays. Et j'ai reflété une image d'une inquiétude. Dans ce sens, cette machine n'a jamais été très rationaliste. Elle était le symbole de l'irrationnel, de nos rapports bizarres, douteux que nous entretenons avec les machines. Je parle de rapports que nous, nos civilisations technologiques, entretiennent avec les machines.
À Beaubourg, c'est différent.
Alors, Beaubourg veut être un peu une situation nouvelle. Il y a la rue qui rentre dans le musée. C'est plus l'art qui va dans la rue, c'est... Bon. Et là, je voulais accueillir en quelque sorte le public avec un art qui répond à la rue, qui est de nouveau la foire. Et c'est la foire, Beaubourg, en quelque sorte. Alors, je réintroduisais là. Je faisais refoire. Et c'est... Je cherche quelque chose. C'est pas encore bien. Je suis pas vraiment tout à fait capable à l'heure actuelle de voir... d'expliquer ma vision. Mais j'ai une vision, j'aimerais essayer de la cristalliser, de provoquer sa réalisation en moi. Et je galvanise mes coopérateurs et collaborateurs et amis, bien que Louis Bull, lui, il a terminé sa partie, disons, et Nicky aussi. Et moi, je suis seul au milieu avec le tronc, je me débrouille et j'essaye de faire des choses. Bon, Nicky fait des choses pour l'intérieur, ils sont très bien. Et il en prépare une. Et elle va être très bien, très féroce, et qui aura une grande force, un grand impact. Mais aussi, je dois parfaire des détails. Je dois m'occuper de beaucoup de détails techniques. Ça m'enquiquine un peu. C'est un peu compliqué. Je suis, disons, face à la technologie compliquée dans ce sens que tout est en bas voltage, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas simplement faire n'importe quoi. Il faut que ce soit toujours un peu en accord avec la sécurité.
Ça, c'est les impératifs. Mais...
Les impératifs de Beaubourg.
Là, oui, mais tu as bien dit que c'était la rue qui entrait au musée, ça on comprend bien, mais là tu fais à nouveau une chose qui est un peu comparable à ce que tu as fait par exemple à l'intérieur des entrailles de la Houne à Stockholm. Oui. C'est une protestation, ça gueule, ça hurle. Oui. Alors qu'on te croyait un peu silencieux, réservé en Suisse. Et est-ce que tu peux dire là en quoi tu es différent? Contre ou pour?
Toujours équivoque, c'est l'équivoque avec moi, c'est toujours le pour-contre, c'est la question-réponse. Je laisse derrière moi comme un point d'interrogation. J'essaie pas de résoudre un problème, je n'y arrive pas. Et je suis à la recherche de quelque chose que je connais pas, évidemment. J'essaie pas de résoudre un problème, je suis pas capable à ça. J'arrive pas à préciser mon idée. Je la fais, je suis en train de la faire. J'essaie de dépasser un certain phénomène. Je sais pas lequel je cherche. Il y a aussi ce côté expérience. C'est carrément une aventure, une expérience. Bon, je me suis lancé dedans, je le fais, je continue, je vais voir ce que ça donne. C'est quoi?
Après-midi de France Culture, 15h24. Maintenant, la galerie des grands hommes de Jean Tinguely.
Biedermann, oui, c'était un moine.
Biedermann.
Biedermann.
Que personne, ça veut dire.
Non, ça veut dire, au fond, bon bourgeois. Et, ou prudent. Non, bon bourgeois, ça veut dire. Et c'était un moine du XVIe siècle qui avait décidé de faire un choc. Je crois qu'il était déjà en réaction sur le protestantisme, c'est sûr. Il voulait purifier l'Église, peut-être, je sais pas, il avait l'intention de faire peur aux gens. Il a écrit une pièce de théâtre, qui est un classique, qui est une pièce de théâtre qui s'est jouée en Allemagne, en allemand, en latin d'abord, en Allemagne, en allemand ensuite, qui est comme sujet, un sujet assez terrible, assez détestable, c'est la mort. Et Biedermann a placé la mort au centre de sa pièce. C'est le personnage central, c'est le neutre, c'est le pôle, c'est la force cinétique puissante. À sa gauche, il y a Dieu, à sa droite, il y a le diable. Il dialogue avec les deux. Et toute la pièce joue dans ce dialogue. Et les bagarres entre Dieu et le diable. Les arguments de Dieu sont parfois aussi sophistiqués que ceux du diable. Et il y a toujours la mort au centre. Et la mort est la plus puissante, la plus forte. Et il le dit, c'est joué sobrement, c'est simple, c'est magnifique, c'est... pièce de théâtre extraordinaire et aussi extraordinairement agaçant, qui vous donne des frissons. C'est une pièce pour laquelle j'ai fait des décors à Salzbourg, dans des rochers, dans une énorme scène qui est à peu près la taille d'une scène de Kabuki. C'est 42 mètres de large. Et derrière, il y a des niches. C'était c'était un endroit où on apprenait aux cavaliers à monter à cheval. Et c'est taillé dans la roche. Les galeries, il y a des galeries qui sont taillées en arc, qui sont taillées dans la roche. Et devant, il y a été aménagé un espace pour le public. C'est un background sensationnel sur lequel j'ai fait des machines qui étaient en fait assez neutres, mais avec l'éclairage, on pouvait tout faire. Mais ce n'était pas l'important. L'important pour moi, c'était la découverte de cette pièce et de cet écrivain même qui était tout simplement une grande surprise. Je ne savais pas que ça existait. J'étais bouleversé par cette pièce. C'était sensationnel.
Oui. Jean, quel est ton contact avec des œuvres anciennes comme ça? Tout d'un coup, tu découvres des gens qui te correspondent. Hein? Celui-là, en effet, c'est assez étonnant.
Oui.
Tu as une culture très développée, des choses anciennes ou pas?
Pas tellement, j'ai surtout une culture
relative à l'art contemporain, qui commence avec l'aventure de ce siècle. J'étais assez analphabète en ce qui concerne les anciens temps. Tout ce que je voyais des anciens, c'était leur cathédrale qui restait, leur ancien monument, parfois leur ancienne peinture, mais sans que je rentre dans leur jeu, je m'intéressais beaucoup plus à l'aventure d'aujourd'hui que de celle d'hier. Alors j'ai progressivement découvert, par exemple, une fois j'ai découvert Goya par l'intermédiaire de la télévision. C'était une émission de, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Dro. Il a fait des émissions sur des artistes. Et il a fait une sur Goya, et alors il avait sa caméra, et ses caméras avec lesquels il pouvait faire des close-ups sur une très célèbre chapelle que Goya a peint dans les alentours de Madrid. Et j'ai été impressionné par la puissance de cette peinture. J'ai vu que c'était encore un contemporain, bien qu'il avait vécu au début du 19e. J'ai dû bel et bien admettre que s'agissait d'une puissante peinture, fantastiquement bien faite, et très, très forte, très expressive. Voilà, j'ai découvert, par exemple, Goya par l'intermédiaire de la télévision, ce qui est un peu... ça fait pas sérieux, mais c'est vrai.
Est-ce que tu pousses pas un peu là, parce que...
Non, je pousse pas, c'est vrai.
Ouais.
J'avais seulement vu, soit feuilleté peut-être des livres de Goya, mais c'est pas la même chose. La caméra faisait des close-up, c'est-à-dire elle faisait des gros plans sur sa manière de peindre dans cette chapelle. C'était parfois peint avec 4 ou 5 traits de pinceau, c'était tac-tac, c'était fantastique, c'était hallucinant. Et j'étais évidemment voir ensuite cette chapelle, et on voit moins bien, parce qu'on est de nouveau un petit bonhomme. La caméra voit presque mieux que nous, c'est infernal. Mais après, j'étais au Prado, etc., je me suis gavé de cette peinture, surtout des tableaux, les derniers tableaux de Goya. C'était pour moi, à la suite de cette émission de télévision, que j'ai découvert Goya. Privé de culture, j'étais assez vite amené à fréquenter l'école des Beaux-Arts. J'étais à l'âge de 14 ans et demi, j'étais dans l'école des Beaux-Arts, et là j'étais immédiatement confronté avec ce qui s'était fait comme peinture, mais évidemment surtout la peinture et la sculpture contemporaine. J'étais mis vis-à-vis de Schwitters tout de suite, j'étais face à Arp, j'étais face à Calder. J'ai aussi un peu plus tard découvert Duchamp, mais j'étais surtout mis en vis-à-vis avec l'aventure de ce siècle. Et cette école, elle était orientée. Elle portait en elle l'esprit du Bauhaus. C'était pendant la guerre. Il y avait pas mal de messagers, c'est-à-dire des profs, qui conservaient encore cet éblouissement des Kandinsky et Klee, et qui nous l'ont retransmis. J'étais trempé dans l'art contemporain. Et l'école même, elle n'était pas du tout... pas tellement à la recherche de vous communiquer des détails sur Piero della Francesca ou sur Goya. Il s'agissait de nous, d'aujourd'hui, et de ce qui venait juste de se faire. On connaissait peut-être tout sur Picasso, mais peu sur le 14e siècle. Ce n'était pas le but de l'école. Cet enseignement que j'ai subi, parce que c'est un traitement, on est violé, on croit faire quelque chose déjà soi-même, mais on voit vite que celui-là l'a déjà fait, que, Monsieur Arp a fait cela, et Monsieur Schmitt a ceci, et Oscar Schlemmer a fait ça, et on est mis en face sans arrêt. C'est évidemment un training colossal. C'est un training, c'est le bon mot, c'est un entraînement extraordinaire. Et je crois que ça donne une bonne formation, ça vous apprend. Ou si je devais bien apprendre à dessiner, j'étais très bon pour dessiner, pour le dessin. Le dessin avait un caractère très constructiviste. On ne se contentait pas à l'école de tolérer un dessin superficiel ou surfaciel. Il fallait que c'était en profondeur et que ça corresponde à la construction, par exemple, en ce qui concerne le corps de l'homme ou de la femme. Il fallait quand même que ça sente où sont les poids, où et comment ça fonctionne un être humain, où sont ses disponibilités physiques. Et là, ça vous apprend très, très bien le métier. Moi, j'étais systématiquement ouvert. Et c'est que bien plus tard, j'ai commencé tout doucement à être en face des temps anciens, presque plutôt par les monuments qui datent d'une autre époque, et presque plutôt par l'architecture et la sculpture que la peinture d'abord. La peinture se trouvait dans les musées, elle était figée, elle était dans les cadres, elle était piédestalifiée, elle était muséifiée, quoi. elle n'était pas si vraie encore. En tout cas, en ce qui concerne dans ma ville de Bâle, c'était comme ça. Et c'est plutôt par l'architecture que j'ai progressivement découvert l'existence de l'art ancien. Et l'existence ensuite, disons surtout de l'art pharaonique. Mais ça, il a fallu encore un long chemin jusqu'à ce que j'aille vraiment... la compréhension d'abord de ce qui existe en communication photographique, et c'est assez faible. La possibilité de communiquer la puissance de l'architecture par la photo est pas forte. Et là, l'image télévisée, elle est peut-être mieux, mais c'est pas suffisant. Bon, un bon documentaire peut vous tremper en Égypte, c'est certain, oui, je suis sûr. Peut-être que c'est là aussi, encore une fois, une chose bizarre, c'est peut-être certaines émissions qu'on peut voir sur, par exemple, les Mayas. Une très bonne émission faite sur les Mayas, une très bonne émission sur les temples indiens, vous apprennent beaucoup de choses sur cela. Et pas nécessairement les revues d'art, qui, tout en faisant par exemple un très bel article sur Gaudi, je crois qu'il vaut mieux y aller ou il vaut mieux voir un bon film pour le comprendre. Et alors voilà, j'ouvre là, sur les temps passés, plutôt tardivement, j'y vais et je m'approche lentement. Et là, muni de ma compréhension et de mon amour pour la poésie plastique, je suis resté très sensible et finalement aujourd'hui je fais une liaison directe, elle est directe pour moi, entre des très très beaux tableaux de Kandinsky ou des merveilleux Mondrian ou disons Klee et l'art pharaonique. Il n'y a pas tellement de grande différence. J'aime les deux, j'aime beaucoup l'ancienne cathédrale, mais ce qui ne m'a jamais empêché non plus de rencontrer et d'aimer la beauté dans l'architecture de nos ingénieurs, que ce soit une raffinerie de pétrole ou un pont magnifique, et même l'art des architectes du 19e siècle, comme la construction de la tour Coquelin, la tour Eiffel, ou certaines réalisations liées à une certaine technologie d'époque, parce que ça a changé souvent. Là, il y a des réalisations plastiques impressionnantes, aujourd'hui et hier, qui sont faites par des ingénieurs, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours pu admirer, du point de vue plastique. Élargissement qui s'est fait, et je crois que cet enseignement d'art contemporain a été un enseignement très rigoureux, très puissant et qui m'a marqué, ça c'est certain. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui ont eu le même enseignement et ça ne les a pas empêchés, par exemple, d'aimer leur ancien. Je crois simplement que ça vous amène à vous sensibiliser plus et plus facilement, plus fortement, plus personnellement que si on vous met simplement devant des gloires de l'art. Et c'était très impressionnant pour moi de rencontrer des artistes que mes parents ne connaissaient pas du tout, évidemment, que mon entourage ignorait. Il est clair que Schwitter n'était pas connu par tout le monde. Il ne l'est encore toujours pas aujourd'hui. Et c'est merveilleux et c'est un grand artiste et je l'aime beaucoup.
Est-ce que tu es un artiste ou est-ce que tu es un ingénieur?
J'étais malheureusement toujours un artiste, et j'ai toujours rêvé, mais je n'ai jamais pu me passer des réalisations des ingénieurs. J'ai pratiqué le sport. Mon sport favori, c'est de prendre des moteurs électriques qui n'ont pas été inventés par moi, évidemment. Alors, ce sont des réalisations d'ingénieurs. J'ai toujours profité de leurs matériaux, de leurs inventions, de leur électricité, de leur capacité, de leur fantastique réalisation. Et évidemment, je leur ai joué des petits tours avec ce même matériel, mais je dépends fortement des ingénieurs. Et c'est tout évident que ce qui est caractéristique de mon œuvre, par exemple, elle marche toujours avec l'électricité. Il est clair que je dépends, comme tout le monde, dans le quotidien, de nos ingénieurs pour vivre. Actuellement, mon clan est un clan d'ingénieurs. C'est un clan qui a été réuni par Leibniz, qui était un Allemand, qui était professeur à Paris, qui a rencontré Denis Papin à Paris quand il avait 20 ans, qu'il était médecin. Mais il est parti sous les conseils de Leibniz, travailler chez Boyle en Angleterre, qui faisait des recherches sur la création du vacuum, c'est-à-dire les recherches sur le vide avec des explosifs. Ces recherches étaient des recherches suivant les recherches de von Guericke, qui avait en premier, lui, essayé et osé faire le vide artificiellement, c'est-à-dire le vacuum. Le vacuum, à l'époque, était une discussion religieuse, comme d'ailleurs la création de toute la technique était une création religieuse, c'était une discussion de base. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire un vacuum? Est-ce que, quand on a découvert pour la première fois, et ça c'est von Guericke, qui a découvert pour la première fois le phénomène électrique et qu'il a identifié, qu'il a réussi à le recréer avec ses boules de soufre, très célèbres, avec un mouvement, il a coulé une boule de soufre, il a mis ça en rotation, il a réussi à créer le phénomène électrique réellement. C'est-à-dire une forme, presque une forme de premier moteur électrique. Et 17e siècle. Et cet homme, ou 16e siècle, pardon, et cet homme arrive à... Cet homme Guericke meurt avant, c'est une génération précédente, et c'est Leibniz qui conserve, et qui d'ailleurs double ses recherches. Il est contemporain à von Guericke, il est plus âgé, il rencontre le petit Papin, l'envoie chez Boyle, qui fait des expériences qui viennent de chez Guericke, qui continue, l'envoie chez Huygens en Hollande, Boyle est à Londres. Il crée Leibniz tout simplement une espèce de teamwork. Ils communiquent ensemble, ces hommes ont une faculté fabuleuse d'avoir des visions sur l'avenir. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y a rien. Il n'y a pas de fer. Le fer étant une chose très rare. Il n'y a pas d'acier. Il n'y a rien. Il y a des pompes extra-moyenâgeuses, plus ou moins utiles, qui sortent un peu d'eau, des trous dans lesquels on doit faire pour creuser le fer. Le fer est très rare. Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de tube. Il n'y a rien. Niette. Il y a une insuffisance technologique absolue. Et Papin, Denis Papin, rentre là-dedans, doit pratiquement inventer tout, tout créer. Il est extrêmement habile, il est un bon artisan, un bon mécanicien. Il est directement génial, il faut bien le dire. Et il est très vite en face de quantité de problèmes pour essayer de résoudre toutes ces difficultés, pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'il a. Il va très vite. Il travaille chez Boyle à Londres et en Hollande. Et finalement, il arrive... Quand il veut rentrer en France, il ne peut pas, parce que le roi de France a aboli les édits de Nantes. Et le roi de France, d'ailleurs, avait fait justement une installation assez farfelue qui s'appelait la machine de Marly, qui est beaucoup plus poétique qu'autre chose. Ils sont occupés par des artistes, des immenses roues, il y avait 16 ou 18 roues, une incroyablement grande, qui avait chacune un diamètre, je ne sais pas, de 18 mètres, qui pompait à peu près autant d'eau qu'un petit engin diesel pomperait aujourd'hui pour arroser tous les jardins de Versailles. Le roi de France avait les moyens de faire des choses impossibles. Les autres n'en avaient pas ces moyens. Et de ce fait, Leibniz a convaincu le Markgraf von Hessen, le Markgraf de Hesse, de faire venir Denis Papin à Marbourg pour qu'il lui fasse un petit peu des pompes comme ça pour faire en meilleur marché ce que le roi de France faisait d'une façon moyenâgeuse avec des milliers et des milliers d'ouvriers, un gaspillage de poids infernal, un ridicule résultat pour faire monter l'eau quelques mètres. Et il avait déboisé à peu près une région aussi grande que toute la région parisienne. Et Papin s'est mis au boulot. Il a sur le champ, Denis Papin, en Allemagne, et ça déjà, il avait eu les premières visions, il avait eu ça à Londres. Il a immédiatement inventé le moteur à explosion. Il n'a pas perdu son temps, comme on peut lire dans le dictionnaire français Larousse, où il est dit que Denis Papin a soi-disant inventé la marmite dite de Papin, et ça se termine là, et il a bricolé aussi sur un sous-marin. Ce n'est pas du tout le bonhomme en question. Denis Papin a, et ça se lit dans les lettres, dans les échanges, de lettres qui existent encore entre Leibniz et Denis Papin, ils ont une vision de la technologie qui est une technologie libérant l'homme. Ils veulent faire la machine pour libérer l'homme de son état d'esclavage dans lequel il était. Ils ont une vision idéaliste. Ces ingénieurs, et ce sont les premiers vrais ingénieurs, ont une vision qui est tout à fait sociale. Ils sont certains qu'ils vont modifier la société. Et en fait, ils vont réussir. Mais plus qu'on croit, et peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais Denis Papin et Leibniz réussissent assez vite à, par exemple, croire que la technologie peut résoudre un très grand nombre de problèmes sociaux. Et ils ont des problèmes sociaux, pas seulement d'ordre religieux, ça c'est plutôt von Guericke. Denis Papin est cool et froid, c'est un protestant. Leibniz aussi. Tout ça, c'est d'ailleurs un petit clan de protestants, il faut dire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus travailler en France, car en France, on tolère seulement les catholiques à l'époque.
Et il y a une espèce de Mazzarini qui a fait un bricolage invraisemblable. Et alors, à la suite de ce bricolage, il y a tous les mecs protestants qui ont été mis à la poubelle ou ils ont été poussés au-delà des frontières françaises. Mais Denis Papin, lui, gratte à Marbourg et il développe assez vite certaines choses. Il invente, par exemple, un tuyau. Il invente le tuyau vraiment qui tient une certaine pression parce qu'il travaille avec la vapeur, le monsieur. Il compresse de l'eau, il chauffe de l'eau. Et il fait monter des pistons. Alors, il faut des tuyaux. Il lui faut des tuyaux tout de suite. Il faut des pistons. Il faut des chemises de pistons. Et il cherche, il court. Il va voir les gars qui ont fait des canons, parce que c'est les seuls qui pourraient peut-être lui forger hein, des chemises de pistons. Il finit par en avoir. Mauvais, pas de bonne qualité. Il n'a pas de segments. Il n'a pas ce qu'il faut. Mais il arrive quand même à faire un va-et-vient. Et il obtient une compression et il obtient de la force. Et il est obligé, évidemment, d'inventer la soupape. Il l'invente. Il invente la soupape très vite. Aussi, l'homme est aussi devenu entre-temps un monsieur qui sait regarder avec quoi il travaille. Il étudie sa chaleur, sa vapeur qu'il provoque avec le feu, le chauffement de l'eau. Et il identifie la vapeur assez vite comme un gaz. Et il est l'homme qui découvre que la vapeur est en fait un gaz, et que ce n'est pas cette espèce de phénomène. La vapeur n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire un phénomène d'évaporation visuelle. La vapeur est toute autre chose et invisible. Alors, il se charge aussi de résoudre une quantité non négligeable d'autres problèmes. Entre autres, il désigne aussi la force vapeur, c'est-à-dire le cheval d'aujourd'hui, que la désignation date toujours de Papin. Et c'est lui qui mesure, prend une mesure, c'est-à-dire avec une certaine force, on peut monter certains poids à une certaine hauteur. Ça, c'est le cheval qui nous sert aujourd'hui encore à identifier notre deux chevaux. Denis Papin, ensuite, il fait des choses aussi qui sont tout à fait dans son esprit. Il crée la cocotte minute. Et il l'a fait pour mieux conserver les aliments, pour sauver de l'énergie. Et c'est un écologue avant l'heure. Il pense qu'on pourra nourrir plus vite, plus de gens. En cas de famine, il y a des périodes où il y a de la famine, on pouvait plus cuire. Et l'appareil s'appelle, il prend un nom anglais pour ça, parce que M. Papin parlait l'anglais aussi, pas seulement l'allemand et le français. Et il l'appelle « digester ». Et c'est un mot qui est très moderne. Je trouve ça étonnant qu'il puisse inventer un mot pareil pour cette cocotte minute. Et je crois d'ailleurs que la cocotte minute va faire une longue carrière encore. Le procédé de cuire plus avec moins d'énergie, c'est-à-dire avec de la vapeur, pour mieux conserver aussi la qualité nutritive de l'aliment, c'est, je crois, tout à fait dans l'avenir de l'homme. Ça correspond tout à fait à nos recherches actuelles. Cette chère cocotte minute, elle a fait un très long chemin.
Jean, est-ce que Denis Papin est un artiste?
Denis Papin, c'est un poète. Il a une attitude d'artiste. Il me plaît beaucoup. D'après des lettres, et des lettres que Leibniz a écrites à d'autres contemporains, Denis Papin parlait vite. Il s'embrouillait souvent. Il était enthousiaste. Il déconnait. Et quand il faisait ses expériences avec les explosifs, il y a de temps en temps ses maisons qui s'écroulaient. Il retournait dans les débris pour aller chercher sa perruque. Il en sortait, c'était un vrai fou quand même. Mais je crois qu'il est déjà dans la trempe de ces ingénieurs qu'on peut voir encore aujourd'hui, que j'ai vu travailler quand ils ont lancé, par exemple, les satellites de communication dans le New Jersey en 1960. Je crois que c'était le Echo 1, Echo 2, ensuite Telstar 1, Telstar 2. Les premiers satellites de communication. Et ça, c'est une chose qui, je crois, est très importante pour l'évolution de l'humanité. Et parce que ça concerne les communications internationales et intercontinentales. Et j'ai assisté à leur enthousiasme
de ces ingénieurs qui étaient de toutes les nations, c'était un des teams. Il y avait un Suédois qui était particulièrement un ami à moi, qui s'appelait Billy Kluber. Et il y avait des Américains, des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Suisses, des Italiens, il y avait une bande de fous qui travaillaient là-dessus. Et moi, ils m'ont donné l'impression d'une équipe assez poétique, bien que peut-être les résultats ne l'étaient. Et en fond, ils étaient poétiques. Echo 1 était très, très beau. C'était un immense ballon qui se gonflait seulement dans la haute sphère et qui reflétait des ondes qu'on lui envoyait. C'est les premières expériences de réfléchir une image dans l'espace aussi. C'était des choses qui étaient très poétiques, toute cette entreprise de ces ingénieurs. Moi, j'étais très ébloui par ça. J'ai pris, moi, mon attitude d'être poétique et je trouvais que l'attitude de ces ingénieurs l'était aussi. Denis Papin, voilà un type pour lequel j'ai une admiration sans borne. Une admiration mesurée parce qu'en fait, on manque évidemment beaucoup d'infos. On manque un peu de renseignements à son sujet. Mais ce que j'ai pu savoir sur lui me plaît beaucoup et je comprends aussi que ces gens ont fait peur. Quand je pense que von Guericke, ça c'est l'homme qui identifie l'électricité pour la première fois, ça c'est l'homme qui crée le vide. Et sans vide, il n'y a pas de moteur possible. Cet homme, von Guericke, qui était en même temps un homme très grand, il était, je crois, entre autres, c'est maire de Magdebourg, d'une ville dont il a dirigé la reconstruction après une destruction dans une guerre des 100 ans. Von Guericke, c'était un homme qui a laissé des paroles derrière lui, dont des poèmes du rien. Il dit dans des... C'est pas des poèmes, mais c'est comme si c'était des poèmes de Yves Klein. Il parle du vide. Il dit que le vide, c'est la plus belle chose. Il n'y a que le vide, il n'y a que le rien, il n'y a que le néant. Rien en dehors du rien existe. C'est fabuleux. Évidemment, ça date de l'époque où il est à la recherche du vide, du vacuum. Cet homme a une attitude tellement effroyable, disons en quelque sorte, il fait peur. Je comprends que ces hommes ont fait peur. Daniel Papin a fait peur. Boyle a fait peur. Ils ont tous fait peur. Les ingénieurs vont continuer à faire peur. Et ce ne sera jamais un sujet de conversation très intéressant de parler d'électricité dans les salons. Ce ne sera jamais un sujet d'intéressant parler d'énergie atomique, clairement, froidement. C'est difficile. Je crois que la preuve, par exemple, l'actuel président des États-Unis, qui était un spécialiste atomique, elle s'en est bien gardée de mentionner l'énergie atomique souvent. Il a beaucoup parlé cacahuète. Il a joué l'homme cacahuète. Mais en fait, c'est un spécialiste de l'énergie nucléaire. C'est bien la première fois, d'ailleurs, qu'un homme d'État, je crois, est à la pointe du pays avec une connaissance nucléaire complète, ce que Jimmy Carter a. Bon, ben, ce genre d'homme a compris qu'il ne fallait pas parler trop technique parce que ça barbe les gens, ça les ennuie. Et cette race des Guericke, cette race des Denis Papin, des Boyle, plus tard des James Watt, des Ampère, des M. Volta, des M. Faraday, ça n'a jamais fasciné les gens. C'est devenu une espèce de truc non identifiable. C'est exagéré. On les prenait pour des farfelus. Après, quand on a découvert que c'était des hommes qui avaient bouleversé le monde, on avait peur d'eux. On a rendu des grands hommages, mais je ne sais pas, ça ne devient pas des personnages réels. On préfère, nous, c'est-à-dire notre civilisation occidentale, on préfère de loin avoir un génie, avoir un grand artiste célèbre qui a fait de la bonne peinture. Sur ses épaules, on met tout. On dit c'est lui qui a inventé la technique. Ça nous plaît énormément de voir ce visage du vieux Leonardo da Vinci avec cette longue barbe poussiéreuse, de voir ses yeux formidables, de cet homme sage, de penser que c'est un homme sage qui a inventé la technique. Ça plaît beaucoup que ce soit un homme poétique et un grand artiste qui a fait la Mona Lisa, qui a inventé tout. On met tout sur ses épaules, on simplifie. Et je ne suis pas d'accord avec cette attitude parce que je sais que, pour le moment, il était un mauvais mathématicien, monsieur Leonardo da Vinci. Bien qu'il faisait semblant de faire des gags disant « sortez de mes cercles », etc. Il était en fait un homme qui n'a pas été un très bon copain aux mathématiques. Mais il avait une chose, il aimait la musique, il était grand, il était superbe, il était très beau, Leonardo. Et il avait une force de séduction énorme, il était sensationnel, et il faisait des jolis petits portraits de bourgeoises, et il savait vraiment bien s'affûter, et il avait un goût pour la musique qui est vraiment sensationnel. Il connaissait toute sa musique contemporaine. Et il y a des gens qui l'ont attaché à leur cours, pas pour tellement pour faire les portraits de famille ou de leur maîtresse, mais surtout parce qu'il connaissait si bien toute la musique qu'on connaissait à l'époque. Et il faisait venir des orchestres et des musiciens, il faisait jouer de la musique de grand goût, il était un homme de goût, c'est un homme sensationnel. Et les rois de France l'ont beaucoup aimé aussi. Et il était le, le, Il était dorloté et il reste dorloté. Il n'a rien à foutre avec la technique. Il a fait une espèce de bicyclette. Il a inventé, je crois, une seule chose vraiment très sérieuse. Et il s'est occupé des canalisations de Milan. Et ça, c'est un travail d'ingénieur qu'il a fait, qui est pas mal fait. Et il s'est aussi inventé, il a fait un tourne-broche. Et that's it. Mais le pauvre Leonardo, à nous, ça nous plaît bien d'avoir un grand bonhomme devant nous. Ça n'a rien à dire contre lui comme artiste. Il a fait des jolis dessins, en plus, qui sont à l'envers. Et ce qui nous plaît aussi, Baptiste, quelque chose comme ça, qui a fait des drôles de trucs. Il y avait un autre, un Espagnol aussi, qui a inventé des choses. Bon, je veux rester sur moi, je veux parler des choses que j'aime. Bon, j'aime Guerrique, j'aime Denis Papin. Guerrique et son vide. Et j'ai continué à aimer beaucoup Yves Klein. Et là, on a plus en face de nous un ingénieur. On est face à un homme fantastique, avec une vision hallucinante et géniale. Une vision de l'espace qui est beaucoup plus réelle que, disons, ces entreprises en bicyclette. Lui, il appelait les fusées des bicyclettes de l'espace. L'espace était une notion tellement immense, beaucoup plus grande. D'ailleurs, la notion de l'espace n'a pas été digérée encore. Je crois que d'ailleurs, c'est quelque peu terminé, cette digestion. On a découvert que c'était pas si drôle de se promener sur une lune vide, que il se passait pas tellement de petits monstres verts sur Mars. On commence à se replier sur nous-mêmes. Je crois que c'est parallèle à tout le mouvement écologique qui s'est enclenché, là, tout l'intérêt qu'on porte à cette Terre. Je pourrais m'imaginer que c'est un rapport avec la découverte de la solitude sur la Lune. Mais là, Yves Klein est plus fort. Yves Klein a une notion d'espace qui est absolue, qui est intransigeante et qui travaille avec une pensée tout à fait immatérielle. Et il te donne le vertige. Et il m'a souvent donné le vertige dans son absolutisme, dans son intransigeance de pensée et dans sa formidable force de donner la suprématie au vide. Et c'était une chose totale, absolument poétique, mais en même temps, je ne peux pas la séparer de l'attitude et des pensées de von Guericke. Et ensuite, il reste chez Yves Klein une œuvre, évidemment, un travail, des exemples, qu'il a lui-même traité comme les cendres de son action. Il a dit ça, je crois, dans une conférence, une fois, qu'il considérait son travail, ses tableaux monochromes, ses empreintes, il considérait ça comme ses cendres. C'était comme un navire qui passe, et c'est les sillons qu'il fait dans la mer, c'était pour lui pas important. C'était ce qui comptait, c'était une espèce de vision qu'il avait, une espèce de folle vision, une spécifique vision qu'il avait sur ce que nous sentons en nous, par rapport à l'immensité de l'espace, par rapport à l'immensité de ces dimensions dans le vide, que nous commençons tout doucement à réaliser. Je sais qu'il y a des gens qui savent beaucoup sur l'espace, mais je ne sais pas s'ils ont la possibilité d'avoir des réactions poétiques de cet espace. Disons qu'il est fort possible qu'un homme comme Yves Klein puisse avoir une réaction par rapport à l'aventure spatiale de l'homme, qui est plus valable que les réactions probables des ingénieurs de Wernher von Braun, etc. Comme il a été possible qu'un Giacometti a été, en tant que Suisse, pourtant jamais dans un camp de concentration, a été certainement plus touché par l'atrocité des camps de concentration en Allemagne. C'est fort possible qu'un homme qui n'a pas souffert peut très mieux exprimer la souffrance que quelqu'un qui en crève dedans. Il est fort possible que quelqu'un qui et face à l'espace, par sa connaissance et par ses possibilités techniques, puisse au fond mal exprimer cette immensité et son aventure fantastique qu'il a devant soi.
Yves Klein à la Sorbonne, le 3 juin 1959.
Je veux terminer en rendant hommage à Werner Runau par ce poème mal traduit, je m'en excuse, du grand poète allemand Christian Morgenstern. Il y avait une fois une clôture faite de lattes de bois avec des espaces entre chaque latte, afin de pouvoir y voir à travers. Un architecte vit cela et vint soudain un soir, prit cet espace entre les lattes pour en construire une grande maison. La clôture est restée là, ensuite très bête et stupide, avec ses lattes sans quelque chose autour. À voir, c'était horrible et ordinaire. C'est pour cela que l'autorité l'a retirée d'ailleurs, et l'architecte a pu s'enfuir en Africo-América. Ce sont les termes du poète. Werner Runau n'aura sans doute pas à s'enfuir, tout au moins je l'espère, car je pense que l'Occident européen comprendra la valeur de notre entreprise immatérialisante à temps pour vivre sans tarder dans le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui.
Sans ça, c'est vrai. Je l'ai commencé à l'écouter, j'étais ravi. Je ne l'avais plus entendu, je l'ai entendu à la Sorbonne et plus jamais après.
Ah oui, c'est fait.
Superbe. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir. Ça, c'est important. Je trouve que ces hommes, von Guericke, Denis Papin, Boyle et Huygens et Leibniz, ce premier teamwork, c'est le tout premier teamwork. Un teamwork, ça veut dire un groupe d'hommes qui travaillent à un but commun, avec cette vision de vouloir améliorer le sort de l'homme, de le libérer de l'esclavage, avec l'aide de la force, avec une force énergétiquement artificielle, c'est-à-dire avec la machine. Cette vision du début, elle va provoquer ensuite, immédiatement, une éclosion de la machine. Ça va aller très vite après. Il y aura assez vite les Anglais. Ils vont se mettre au travail jusqu'au très grand James Watt qui fabrique avec Murdoch les vraies premières machines qui produisent de l'énergie avec lesquelles on va faire nos usines, avec lesquelles on va travailler. Et on peut me répondre, oui, et c'est à partir de là que commence le vrai esclavage. Je suis d'accord, c'est terrible. Mais en même temps, les hommes ont toujours cette vision de vouloir libérer l'homme de l'esclavage et ils produisent de plus en plus, je suis d'accord. Finalement, ça devient absurde parce qu'on fait des machines pour extraire plus de fer. Avec ce fer, on fait plus de machines. C'est la folie, c'est l'histoire de l'apprenti sorcier. Elle est dedans, je suis d'accord. Mais il y a une chose que je sens, et elle est forte, celle-là. Et je l'ai constaté en regardant, en réfléchissant sur eux, en les visitant, en les voyant, en lisant un peu, en m'informant dans la mesure où on peut s'informer là-dessus. Ces hommes ont bouleversé cette époque. Ils l'ont bouleversé énormément. Ils ont bousculé l'époque. Ils ont provoqué une révolution sociale après l'autre. Il n'était pas question, par exemple, d'abolir l'esclavage sans avoir des moteurs. On ne pouvait même pas abolir l'esclavage. On a pu abolir l'esclavage, on a pu introduire la pensée sociale à partir de l'énergie vapeur, à partir de l'électricité. Et c'est évident que c'est une pensée matérielle, mais elle est réelle. Je veux dire par là, les révolutionnaires ne s'appellent pas Marx, ne s'appellent pas du tout, comme on croit, Pierre-Joseph Proudhon. Ce sont des révolutionnaires. Dans le cas de Pierre-Joseph Proudhon, de toute façon, c'est pas tellement Bakounine qu'il faut admirer, c'est pas tellement Kropotkine, c'est pas tellement Jean-Jacques Rousseau, c'est pas tellement Voltaire. Les révolutionnaires, c'est des mecs comme Faraday, c'est des Volta, c'est carrément les Denis Papin. Voilà la phalanx qui ont bouleversé ces siècles et qui continuent à le bouleverser. Et il s'est ajouté à ces grands noms une innombrable quantité de noms qui, eux, vont continuer à nous mettre peut-être dans une chose terrible. Ils vont nous lancer dans une civilisation. Ils nous ont déjà lancé dans une civilisation tellement infernaliste qu'on ne sait plus comment faire pour trouver des solutions. On ne sait plus comment faire pour arrêter la machine. On est dans la situation de l'apprenti sorcier, ça c'est clair. Mais je voulais juste dire, neutralement, constater. Voilà les révolutionnaires. Ils ne s'appellent pas tellement Jean-Jacques Rousseau. Ils s'appellent Denis Papin.
Point de repère, Otto von Guericke, physicien et astronome allemand, né à Magdebourg en 1602, mort à Hambourg en 1686, auteur des fameuses expériences des sphères de Magdebourg. Denis Papin, physicien français, né à Blois en 1647, mort à Marbourg en 1711, inventeur de la machine à vapeur et de sa soupape de sécurité. Yves Klein, peintre français, dit Yves le monochrome, 1928-1962, homme de la couleur pure et du vide, auteur des sensibilités picturales immatérielles.
Pour moi, je suis pas nécessairement artiste, c'est la société autour de moi qui me donne une position comme artiste. Au lieu de me mettre dans un asile d'aliénés, elle me met artiste. Elle me flanque dans un musée, ça c'est la même chose. Au lieu de me défendre de travailler, elle me paye. Ça vient au même, c'est la même chose. C'est une forme d'annuler les choses aussi. D'être dans un musée, on est automatiquement annulé quand on est dans le musée. C'est une annulation comme une autre. D'être piédestalifié, c'est une catastrophe. D'avoir du succès, c'est une tragédie. Mais en même temps, je suis d'accord qu'on ne peut rien faire sans rien. Et je suis pour et contre. Je veux aller, j'ai tout fait pour aller dans les galeries, j'ai tout fait pour aller dans les musées. Et dès que j'étais dedans, je ruais dans les brancards et j'essayais de faire tomber les cerises. Mais en fait, on n'a pas le choix d'être artiste. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Moi, je ne sais pas si je ne pourrais pas te dire si je suis un artiste. Je sais que je peux faire un certain nombre de choses par rapport à quelqu'un qui est en face de moi, que ce soit un enfant dans la cour ou un voisin ou une personne qui peut fonctionner. C'est-à-dire, il va rire, il va se fâcher, il va avoir une indigestion, il va me dire « c'est de la merde », il va me dire « c'est chouette », il va me dire « c'est rigolo », il va me dire « qu'est-ce que tu dois t'amuser alors que c'était parfois je me fais seulement chier en fabriquant mes trucs soi-disant pour amuser les autres ». J'ai plein de difficultés, je suis nullement doué pour la technique, je suis mal foutu comme tout pour travailler, je sais encore aujourd'hui pas souder, je dois toujours finalement passer un autre qui vient souder mieux que moi pour que mes trucs s'écroulent pas, je suis pas dans le coup du tout. Bon, je travaille comme un forcené, j'ai de l'enthousiasme pour mon boulot de demain, et au fond je m'en fous du passé et de toute la quincaillerie que je laisse derrière moi.
Alors, est-ce que l'ingénieur libéré, c'est l'artiste?
Alors, au fond, c'est là où Denis Papin et von Guericke sont des artistes, en quelque sorte, parce que c'est les inventeurs, les rêveurs, les poètes parmi les ingénieurs. Et nos grands pionniers du 19e, c'est certainement tous des hommes qui ont l'attitude de l'artiste. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des générations d'ingénieurs qui sont des ingénieurs peut-être un peu moins artistiques, mais beaucoup plus efficaces et beaucoup plus technocratisé, beaucoup plus rationaliste, et à la merci des capitalisateurs qui leur demandent des résultats d'une efficacité immédiate et des résultats parfois bien, bien tristes.
Le crophodrome de Ziguepus, qui a été le point de départ de cet après-midi, va fonctionner encore pendant 8 mois environ au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à Paris. Mais déjà, Jean Tinguely, vous travaillez sur un autre chantier.
Eh bien, j'ai fait des fontaines. 8, 9 fontaines qui sont réunies ensemble. Qui sont j'avais le vocabulaire prêt. Mais on m'a donné des conditions parfaites. C'est-à-dire j'ai pu donner la dimension du bassin. Le bassin n'est pas profond, il est grand. L'eau est noire, je l'ai noircie. Les machines, les fontaines, eux, matériellement, sont noires. Et tous les gicleurs, il y a tout un vocabulaire, tout un jeu, toute une palette de giclage possible. J'ai fait jouer ça ensemble. Il y en a qui font des mouvements très drôles. J'ai fait 3 fontaines drôles. J'en ai fait 6 qui sont plutôt majestueuses, plutôt bien, plutôt japonaises. Parce que c'est des mouvements orientaux. Lent, pas énervant, stabilisant, mais c'est plein de mouvements, plein d'attractivité. Et il y a les jeux de lumière la nuit, il y a les jeux de lumière du mauvais temps, et il y a les jeux de lumière de l'éclairage artificiel, et il y a le soleil. Quand il rentre là-dedans, et il distribue d'une façon somptueuse des arcs-en-ciel, c'est superbe. Et il y a la joie des gens, il y a juste l'eau qui bouge, tu sais, c'est une force physique, l'eau est très séduisante, elle n'est pas stagnante, l'eau, elle est vivante. Et c'est tout simplement une chose que j'ai fait bien. Voilà, on réussit parfois à faire des choses.
Et où est-ce que ce sera mal?
C'est devant le théâtre, l'emplacement de l'ancien théâtre, là où il y avait la scène de l'ancien théâtre. et le nouveau est à côté. Alors il fallait faire quelque chose. Et le gouvernement balois m'a demandé de faire un truc, et je l'ai fait. Et j'ai eu tout à fait la main libre, j'ai même pas fait de maquette. Je me suis commis au travail, j'ai rêvé, je me suis beaucoup bagarré avec l'architecte, je me suis défendu pour chaque centimètre de ma fontaine, et j'ai fait un truc immense, qui est au moins 8 fois aussi grand que cette salle, avec ces jolies machines au milieu, qui se jouent de tout, et tu vas te marrer quand tu vas les voir.
L'invité du lundi, aujourd'hui 27 juin 1977, était le sculpteur Jean Tinguely, avec la participation d'un enregistrement d'une conférence faite par Yves Klein en 1959, l'évocation de physiciens comme Otto von Guericke ou Denis Papin, d'écrivains comme Biedermann, homme célèbre dans la galerie des grands hommes de Jean Tinguely, les musiques Pierre Henry, Bernard Parmigiani, Robert Altaber. Bien sûr, nous tenons à votre disposition une documentation sur Jean Tinguely. Essentiellement, il y a un gros ouvrage qui est paru récemment aux éditions Pierre Auret, avec un commentaire et une préface de Pontus Hultel, lequel, je le rappelle, est le directeur du Musée national d'art moderne à Paris. Voilà, c'était 100 minutes préparées par Pierre Descargues et André Mathieu.
Jean Tinguely était l'invité du lundi au micro de Pierre Descargues dans les après-midi de France Culture. Première diffusion le 27 juin 1977. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.